Vous écoutez France Inter, il est 18h16.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir un optimiste invétéré, un homme pour qui impossible n'est pas français. Nicolas Chaban a lancé il y a 2 ans le lait C'est qui le patron. Depuis, le succès de la marque ne se dément pas. Il y a de plus en plus de produits concernés, des produits choisis par les consommateurs et surtout, à l'autre bout, des producteurs heureux de pouvoir vivre de leur travail. Alors quelle est la recette de ce coup de maître? C'est ce que l'on verra avec lui et à travers un reportage de Manuel Ruffez. Également au programme de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Marianne Écrimbeau, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, un tournoi de foot comme vous n'en avez jamais vu, avec des équipes à la composition totalement improbable, histoire de favoriser les échanges entre des gens qui sinon n'auraient eu aucune chance de se croiser, une initiative de l'association Fraternité Générale. À 19h20, au téléphone sonne tout à fait autre chose. Une semaine après le coup de gueule de François Ruffin à l'Assemblée sur le cas des AVS, on fera le point sur l'accompagnement des enfants handicapés en milieu scolaire. Pour en parler, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Nicolas Chaban.
Bonsoir Claire.
Bienvenue sur France Inter et d'abord bon anniversaire.
Ah, c'est un anniversaire que vous souhaitez à beaucoup de gens, hein, parce que l'initiative est très collective. Mais c'était il y a 3 jours.
3 jours, 2 ans. Hein.
2 ans, 2 ans que cette petite brique de lait créée par les consommateurs pour soutenir les producteurs est apparue dans un rayon d'un magasin Carrefour le 15 octobre 2016.
Voilà, une brique de lait, c'est qui le patron? C'était quoi l'idée de départ? C'était en pleine crise du lait, permettre avant tout aux éleveurs de vivre de leur travail et aux consommateurs d'acheter du bon lait, c'est ça une
voilà.
idée?
On était une petite famille de consommateurs, on s'occupe toujours de l'anti-gaspi en sauvant les gueules cassées, les fruits et légumes avec des défauts d'aspect. Et on s'est dit, c'est pas possible que notre argent serve à alimenter un système où on savait qu'à l'autre bout, un petit producteur n'arrivait pas à vivre de son métier. Alors on s'est dit, on va faire notre brique de lait. C'était un rêve au départ, et puis c'est devenu réalité avec des rencontres qui ont permis tout ça. Et voilà comment cette brique de lait, avec un prix garanti pour le producteur, est apparue dans les rayons. Et là, il y a quelque chose qui nous a dépassé et nous dépasse encore. Pas de bureau au départ, pas d'équipe, pas d'argent, pas de levée de fonds. Juste un appel à la solidarité côté consommateur et une mobilisation incroyable de gens qui, je le sais, nous écoutent parce qu'ils savent qu'on est là avec vous ce soir.
Dites-moi voilà. Juste comment vous avez fait au tout départ. C'est quoi? C'est une équation que vous avez fait dans votre tête?
Oui.
Multiplication.
Un jour, un conseiller d'un ministère de l'Agriculture précédent nous dit, vous n'avez pas une idée? On est dans une crise totale au niveau du lait. Et je me rappelle, on avait posé cette question en retour. Combien il manque sur 1 litre de lait pour que le producteur vive de son métier? Et là sont apparus les 8 centimes. On a pris conscience, nous, à notre niveau, qu'il manquait 8 centimes à un producteur. Deuxième question, combien on boit en moyenne par habitant de litres de lait par an? 50 litres. 50 litres fois 8 centimes, ça fait 4 euros. Voilà comment cette équation est apparue et comment finalement on s'est posé la question simple, tous, avec les réseaux sociaux qui ont donné un écho incroyable, est-ce qu'on ne mettrait pas 4 euros de plus par an pour redonner le sourire à un producteur à l'autre bout de la chaîne?
Vous dites nous, parce que c'est quoi? C'est une coopérative avec beaucoup de consommateurs qui sont avec vous?
Voilà, c'est un projet qui s'est tout de suite noué de façon collective, via les réseaux sociaux, via la presse effectivement qui en a parlé. Mais pour vous donner une image toute simple, vous avez la brique de lait là, c'est qui le patron devant vous? Au bout de 2 ans, c'est le produit nouveau le plus vendu de l'histoire de l'agroalimentaire. Alors je dis pas ça uniquement pour les 72 millions de litres, ce qui représente quelque chose d'assez incroyable. Je dis ça parce qu'il n'y a pas de publicité ou de programme de pub à la télé, et il n'y a même pas de commerciaux dans les magasins. C'est bien qu'autre chose est venu relayer cette dynamique, et finalement, c'est individuellement des gens, de simples consommateurs comme nous, qui ont dit, ça a du sens, on veut aider des producteurs, et on va faire un succès de soleil.
Voilà, c'est ça, sans financeurs, sans actionnaires, sans pub, sans commerciaux. Enfin, cela dit, vous êtes un peu un plan marketing à vous tout seul, Nicolas Chaban, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont.
Ah, je ne sais pas comment je dois prendre ce finalement un compliment, certainement. Non, mais c'est vrai que cette passion, ce bon sens bien réel, vraiment soyez sûr que... D'ailleurs, les sociétaires viennent dans les bureaux, nous challenge, nous disent, est-ce qu'il n'y a pas un loup derrière? On vient voir un peu ce qu'il y a derrière tout ça. Il n'y a pas d'actionnaire, on est libre. C'est une marque qui nous appartient à tous. On peut l'orienter, il y a 18 produits maintenant qui sont...
Oui, parce que vous êtes venu avec votre brique de lait, mais pas seulement. Hein. Vous êtes venu avec le jus de pomme, avec du miel, avec du chocolat. Hein. 18 produits, quoi, maintenant.
Ouais, pareil. Le monde de l'agroalimentaire nous dit, mais c'est incroyable.
Mais des produits transformés, hein, pour certains.
Voilà, des produits transformés. Alors, ce sont des partenaires qui nous disent, on est prêt à exaucer le cahier des charges idéal, puisqu'il faut rappeler que c'est sur Internet que ça se passe. On décide d'un cahier des charges avec chaque critère qui devient le prix final. Hein. C'est-à-dire que le lait, on a choisi que c'était équitable. Puis après, on s'est dit, les 8 centimes de plus, est-ce qu'on n'enlèverait pas les OGM? Et voilà comment le prix, avec 5 centimes de plus, nous a permis d'écarter les OGM, d'avoir du pâturage, des fourrages locaux. Donc c'est un lait qui soutient le producteur, mais qui aussi est gagnant-gagnant parce qu'il est de qualité. Et puis il y a autre chose qu'on gagne tous. Franchement, c'est le sentiment assez fabuleux que notre argent sert à quelque chose de bien.
Alors, puisque vous parlez des OGM, il y a d'autres questions qui se posent. Il y a des sujets dont on parle beaucoup dans l'actualité. On a beaucoup parlé des pesticides, on a parlé du glyphosate ces derniers jours. Alors, question, dans les produits, c'est qui le patron? Est-ce qu'on trouve du glyphosate?
Alors, je vais être très honnête, puisque c'est pas aujourd'hui une question qui a été posée, mais vous avez raison, c'est une question qui a rattrapé aussi l'actualité. Et puis, notre connaissance, nous, de la possibilité de le faire sans glyphosate. Et voyez, finalement... Vous venez de soulever quelque chose de clé. Au-delà de tout ce qu'on pourra faire au niveau politique, on a un bulletin de vote extraordinaire, tous dans notre poche, c'est cette fameuse carte bleue. Parce que si demain, on peut signaler sur les produits que certains n'utilisent pas ce fameux glyphosate, eh bien on aura, avec ce moyen simple de voter chaque jour, la possibilité de faire grandir ceux qui font des efforts plus responsables et de diminuer l'impact de ceux qui ne font pas ces efforts.
Le pouvoir des consommateurs. Pour ce qui est du contrôle, Nicolas Chaban, comment ça se passe ?
Alors, point très important, tous les produits sont contrôlés par les organismes officiels. C'est Bureau Veritas qui va contrôler que le cahier des charges qu'on a décidé tous ensemble est bien une réalité. Et puis, des sociétaires nous ont dit, ça suffit pas. C'est très bien, mais nous, on veut aller directement voir les producteurs derrière ces produits pour leur demander, les yeux dans les yeux, est-ce que vraiment votre vie a changé depuis qu'on achète ce produit qui nous dit être plus équitable? Et cette relation-là, elle a tout changé. Donc, voyez,
Et ce sont les sociétaires qui y vont, alors?
Voilà,
vous avez suffisamment de monde pour aller contrôler comme ça?
Autre immense surprise, on pensait que ça allait être difficile de trouver des gens. Eh bien, finalement, à chaque visite chez les fabricants, on est allé voir les compotes chez le fabricant, on attend 8-10 personnes et c'est 80 personnes qui se proposent. Vous voyez, il y a une richesse qu'on oublie un peu tous. Les millions d'euros ne sont plus là, mais il y a une richesse fabuleuse. C'est ce trésor de la capacité qu'on a tous à nous impliquer. Après, il faut que ce soit dans un cadre et des histoires saines, mais c'est un vrai trésor, cette notion de bénévolat, la société civile, finalement.
Ils sont où, vos sociétaires? Un petit peu partout en France ou concentrés dans certaines régions?
Ils sont absolument partout en France, pas d'ailleurs plus à Paris qu'ailleurs. On se rend compte qu'évidemment les réseaux sociaux donnent un écho très vite élargi. On nous a posé une question récemment, voyant les chiffres de vente qui se sont d'ailleurs succédés. C'est-à-dire qu'après le lait, le beurre bio, un petit mot là-dessus, c'est devenu l'innovation bio la plus vendue en 2018. Et elle s'est même hissée au milieu des autres innovations qui ne sont pas bio. Et écoutez bien ce qui s'est passé sur ce vote-là. On a dit à tout le monde, est-ce qu'on n'aiderait pas le bio de demain à travers ce beurre bio? On a mis 1 centime, 2, 5, 10, 15 pour aider les gens en conversion bio. Toute la grande distribution nous a dit, mais jamais les gens mettront 1 centime de plus, ils nous demandent de les enlever. 15 centimes ont été votés. 15 centimes de plus sur ce beurre qui coûte 2,20 €. Eh bien, voyez-vous, c'est pas devenu un beurre bobo dans un coin d'épicerie à Paris. C'est le produit bio le plus vendu en 2018. Donc, quand vous mettez du sens dans un produit, vous avez des chances de le vendre à bon entendeur.
Alors, on va revenir sur tout ça, évidemment, Nicolas Chaban. Mais d'abord, on va passer, comme tous les vendredis, à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Marianne Crimbaud. Au sommaire, cette semaine, la grosse colère de Jean-Luc Mélenchon, un remaniement limité et des inondations catastrophiques qui ont fait 14 morts, 75 blessés et de très gros dégâts.
J'ai vu ma voisine qui était plaquée contre ma véranda en me disant « Sauvez-moi !» Et nous, on ne pouvait pas ouvrir. Il a fallu qu'on monte vite à l'étage, qu'on monte sur le toit, qui était prêt à péter. Elle était emportée par la boue. Et on la tenait. On lui disait se tenir, d'avoir courage. On n'avait pas d'électricité. J'ai pris les draps de ma grand-mère. Je lui ai lancé pour qu'elle puisse se rattraper. Et on l'a tiré avec mon mari. Et mon mari a failli partir avec la vague. Il s'est retenu. Voilà, on est vivant.
Terrible témoignage que celui de cette habitante d'Aragon dans l'Aude après les inondations meurtrières du début de la semaine. Un déluge qui a obligé Emmanuel Macron à repousser d'une journée l'annonce du remaniement du gouvernement. Dans la foulée, le président a décidé de s'adresser aux Français depuis l'Élysée.
Parfois, par ma détermination ou mon parler vrai, j'ai pu déranger ou choquer certains. Et j'entends les critiques.
Un nouveau mea culpa pour le chef de l'État qui avait visiblement oublié d'allumer la lumière.
On est passé de Jupiter au crépuscule des dieux.
Le député UDI Jean-Christophe Lagarde.
Je n'ai pas compris qui a pu lui conseiller de parler ainsi dans le noir.
Jour, nuit, jour, nuit.
Sinon, après deux semaines de réflexion, Emmanuel Macron a fini par choisir le remplaçant de Gérard Collomb à l'intérieur. Ce sera l'autre fidèle de la première heure, Christophe Castaner, qui promet d'y mettre toute son énergie.
Elle sera, mesdames, messieurs, à votre service, chaque jour, 24 heures sur 24, sans repos.
Sans dormir, sans manger, ni boire.
Sans perte de temps, parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total.
Au moment où Christophe Castaner prenait ses fonctions, place Beauvau, perquisition tous azimuts chez les Insoumis, avec un Jean-Luc Mélenchon fou furieux.
Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Vous ne me touchez pas! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, vous ramassez cette porte!
Vive réaction des magistrats de l'USM et du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Son secrétaire général, Jean-Marc Bailleul.
Ça nous rappelle le genre de perquisition où on vient nous perturber quand on intervient dans des quartiers difficiles, dans des affaires de stupéfiants, par exemple. C'est gravissime.
Du côté des militants insoumis, certains désapprouvent l'attitude du chef, d'autres non.
Mais je crois pas que le sujet soit la colère de Mélenchon, mais plutôt le fond de cette affaire. C'est quand même une provocation.
Dans la classe politique, soutien sans faille de Marine Le Pen qui dénonce des procès politiques.
Un régime où les droits politiques de l'opposition sont aussi brutalement mis en cause, c'est un régime totalitaire.
Sinon, chez les Républicains, tout va bien. L'élection du nouveau patron des jeunes LR a donné lieu à des accusations de fraude, comme au bon vieux temps chez les aînés. C'est un soutien de Laurent Wauquiez qui l'a emporté, mais un enregistrement dans lequel il était question de récupérer les identifiants des adhérents a jeté un froid.
À mon avis, faut pas trop qu'on joue ça.
Ah ouais. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Je pense juste qu'il faut tenter parce que c'est un réserve de bonnes manettes.
Lui parle d'un enregistrement sorti de son contexte moral de l'histoire. La relève est assurée. On termine avec l'événement discographique de la semaine et sans doute même de l'année. La sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday. Chez Warner Music, on a mis les petits bacs dans les grands.
Donc on est autour de 800 000 albums mis en place. Il y a de fortes chances qu'à 0h01 vendredi soir, effectivement, l'album soit déjà platine. Voilà.
Si jamais on me dit que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas.
J'en parlerai au diable, extrait de cet album posthume de Johnny Hallyday, dont on entendra un titre tout à l'heure. Une semaine en France, en compagnie de Nicolas Chabanne ce soir. Nicolas Chabanne, est-ce quelque chose qui a retenu votre attention dans l'actualité de la semaine ?
Je ne peux pas m'empêcher d'avoir la sensation que tout va très vite. C'est-à-dire que même cette espèce de spectacle politique là qu'on supportait, un peu comme dans le monde agroalimentaire, on avait cette espèce de, vous savez, cette laitière là qui nous donnait l'impression que les yaourts étaient faits comme ça. Tout va vite. Là, ça devient un peu ringard, un peu étonnant, un peu théâtral tout ça. Je crois qu'il y a un décalage qui se crée très très vite là.
J'ai cru comprendre que vous étiez très méfiant à l'égard des politiques.
Par nature, parce que quand on se rend compte qu'on a une capacité à son niveau, c'est la belle société civile, de faire des choses efficaces, avec beaucoup de bienveillance et en partageant ce plaisir avec d'autres, on reste très bienveillant, nous, pour le monde politique. Mais on est un peu moins en attente de ce qu'il pourrait apporter. Mais si les choses changent, il s'est passé des choses là récemment, pourquoi pas? Alors, il faut rester tout à fait ouvert à ce niveau.
Vous faites allusion à Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, c'est ça qui a dit vouloir s'inspirer de votre modèle pour influer sur les décideurs de la politique agricole commune, c'est ça, au niveau européen?
Voilà, alors on a regardé, on s'est parlé d'ailleurs, c'est-à-dire que là, le monde politique d'avant, bon, on est un peu moins sûr que ça peut éventuellement faire bouger les choses. Mais si Yannick Jadot ou d'autres décident de faire finalement des programmes où des citoyens vont venir à la façon de ses qu'ils patrons, c'est pour ça qu'il a cité un exemple, venir voir et comprendre ce qu'on peut faire, partir des fameux 120 euros de la PAC, comme il l'a dit, où on met cet argent? Comment on trace cet argent? Est-ce qu'il va vraiment aider des petits producteurs? Est-ce qu'on va limiter le Roundup et le glyphosate? On peut s'impliquer, nous, citoyens, en amont. On peut, en aval, aller contrôler que ça se passe bien comme on l'avait souhaité. Et finalement, si nous, on décide d'appliquer des grandes mesures de la vie politique, vous savez très bien qu'on en fera un succès. Donc, c'est arrêter d'être un citoyen comme on l'était, nous, qui prenait en tête de gondole ce qu'on lui disait. Créons ensemble tout ça, contrôlons la vie politique, et puis on peut peut-être faire quelque chose d'assez incroyable.
C'est quand même peut-être le début du commencement d'un rapprochement. Sinon, Nicolas Chaban, pourquoi avoir refusé d'aller aux états généraux de l'alimentation? C'était pourtant votre champ d'action, ça.
Alors, on l'a pas vraiment refusé, mais disons que comme on nous l'a pas beaucoup demandé, on s'est dit qu'on n'allait pas rappeler pour savoir si on avait une place là-bas. On nous a donné une explication assez géniale. Ça a tellement fait bouger les lignes, c'est qui le patron? Nous a-t-on dit que vous mettre au milieu de ces commissions, ça va créer un contraste, une espèce de choc thermique permanent, parce que ça, voilà. Donc c'était bienveillant, mais il fallait pas trop être là. Après, on a été étonnés de voir
Macron vous a
Macron,
cité, hein.
Voilà, cité, c'est qui le patron? Et nous, tout ça, on le prend sans aucun cynisme, on le prend comme des bonnes nouvelles. Si quiconque sur cette terre et autour de nous est capable de dupliquer des initiatives collectives avec beaucoup d'humilité, c'est ce qui manque d'ailleurs à l'écoute là des informations qu'on a eues tout à l'heure, de l'humilité. C'est incroyable de pas passer par ce chemin-là qui reconnecte immédiatement à tout le monde. Et cette espèce de déférence, cette distance, c'est plus très bankable aujourd'hui.
Le nouveau ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, vient de la Drôme, c'est votre voisin, vous le connaissez pas particulièrement?
Non, on sait qu'il est effectivement du sud, mais enfin vous savez, nous à Avignon, à partir de Montélimar, c'est le nord, donc...
À partir du moment où on n'entend plus les cigales, c'est terminé. Voilà, oui, voilà. Non, mais je sais bien que ça marche comme ça.
Ça reste le grand sud, mais c'est pareil. C'est vrai que ça, c'est très étonnant pour nous. Comment une équipe qui entame des actions peut être remplacée par une équipe qui serait plus efficace en ayant moins de temps et moins de capacité à s'être entendue? Vous voyez, c'est des idées toutes simples, mais on aimerait bien mettre notre nez au milieu de tout ça. Et quand Yannick Jadot dit « on peut peut-être faire des choses ensemble et il est certain que ça peut avoir une vertu », on lui a dit « faites-le avec humilité, faites-le en relais simple, ne venez pas comme une grande marque mettre en scène tout ça, faites une vraie place ». Allez, au bon sens collectif, et surtout, laissez-nous venir contrôler de façon bienveillante que tout ce qu'on nous a dit était vrai. Et là, il y a une équation qui peut peut-être fonctionner.
Et on suivra ça de très près. On va passer maintenant au reportage de la semaine. Alors, je vous présente Manuel Ruffès. Je crois que je n'ai même pas besoin de vous le présenter. Vous le connaissez, Manuel Ruffès, c'est notre monsieur agriculture ici à la rédaction de France Inter. Bonsoir Manuel.
Bonsoir.
Vous avez rencontré, vous, il y a quelques mois déjà, des éleveurs avec lesquels, justement, travaille Nicolas Chaban.
Mais oui, parce qu'aujourd'hui, c'est qui le patron? Ce sont au total 600 producteurs de lait qui travaillent directement pour cette fameuse brique de lait du même nom. Mais indirectement, avec tous les nouveaux produits, on compte maintenant 2000 producteurs. C'est ça à peu près. Ces éleveurs de vaches laitières, ils ont en commun d'être payés à la hauteur de leur coût de revient. Un prix qui leur permet de vivre et qui va de 39 à 42 centimes le litre de lait. Et parmi tout cela, il y en a alors au moins deux éleveurs très emblématiques. Le premier dont je vais parler, c'est Régis Mingui. Il est installé en famille dans le Maine-et-Loire sur 170 hectares avec 110 vaches laitières. Pendant 40 ans, le lait de l'exploitation familiale est collecté et acheté par le groupe Lactalis. Jusqu'au jour où Régis Mingui témoigne dans un reportage de France 2, ce qui déplaît à Lactalis, qui décide de ne plus prendre son lait. Écoutez Régis Mingui.
À l'époque, on nous payait notre lait 280 euros les 1000 litres. Quand on sait que sur les exploitations françaises en production laitière, pour non pas gagner de l'argent, mais pour arriver à payer nos charges, il faut entre 330 et 350 euros les 1000 litres. Ça faisait déjà quand même bientôt un an et demi qu'on était payé en dessous de 300 euros. Et bien là, on a pris la décision de vendre une partie du troupeau. Là, on n'avait plus d'autre choix. Hein. C'était, de toute façon, l'exploitation ne nous permettait plus de prélever de salaire.
Voilà, Et même à ce moment-là, Régis Maingui pense que tout est terminé, qu'il va falloir mettre un terme à son activité d'éleveur laitier. Mais c'est qu'il patron entend parler de son cas et de 5 autres de ses collègues dans la même situation et décide de les intégrer à son réseau. Et là, la vie de Régis Maingui change du tout au tout.
Se lever le matin en se disant on va enfin ne plus perdre d'argent et on va même pouvoir un peu en gagner pour faire vivre notre famille. Se verser un salaire, mais ça devient possible. Au mois d'août, ça a permis de prendre une semaine de vacances. Mais pour les enfants, c'est royal, qu'on ne va pas se voiler la face. Hein. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et dans le travail de tous les jours, hein, y a un tracteur qui tombe en panne, il y a une pièce à changer. C'est plus la galère de se dire, mais comment on va faire pour payer ça, quoi ? Comment on va faire pour payer le mécano ? Comment on va faire pour payer l'entreprise agricole qui est venue nous faire l'ensilage ? Eh bien, on va pouvoir surmonter.
Voilà, une semaine de vacances, c'est extraordinaire. Alors, il y a surtout, et c'est lui qui est un peu à l'origine de tout, Martial Darbon. Il est à la tête d'un petit groupe de producteurs du département de l'Ain qui ne s'en sort plus. Le lait est vendu tellement peu cher que plus personne ne peut en vivre. Et c'est là qu'intervient une nouvelle fois C'est qui le patron ? Ce sont les 80 premières familles qui entrent dans l'aventure. La dernière fois que je l'ai rencontré, Martial Darbon, c'était un événement pour lui. Monoprix venait de décider de vendre sous sa marque distributeur le lait C'est qui le patron ?
Il y a un an et demi maintenant, on était dans une merde pas possible. Et aujourd'hui, de savoir qu'il y a déjà 250 familles qui se portent plutôt pas mal. Et puis une nouvelle comme Monoprix qui met la totalité de son lait à rémunérer le producteur à 39 centimes, c'est génial. Il y a quelques fondamentaux qui sont en train de changer. Les consommateurs, ils prennent conscience. Derrière, il y a le territoire, il y a le paysage, il y a des hommes, des femmes, il faut qu'ils gagnent leur vie. Rien n'est durable qui n'est pas équitable. Donc à un moment donné, ce commerce équitable qui est respectueux de tout le monde, forcément, il protège un peu tout le monde et il permet de rester dans son territoire.
Vous l'avez entendu, rien n'est durable qui n'est pas équitable. C'est du Martial Darbon, ça pourrait être une devise pour C'est qui le patron.
Merci beaucoup Manuel Ruffez. Alors on va parler tout à l'heure de la distribution et de l'endroit où on trouve vos produits, Nicolas Chabanne, mais encore un petit mot des producteurs. Manuel disait 600 éleveurs actuellement
Pour le lait, avec grâce à C'est qui le patron. De plus en plus de familles effectivement qui viennent dans la démarche. Et puis maintenant, le cahier des charges décidé par les consommateurs qui se déplacent pour faire un lait qui entre dans la composition, vous l'avez là, du fromage blanc, de la fourme, qui est un fromage, et du beurre aussi finalement. Donc finalement, l'ADN des cahiers des charges plus équitables deviennent des produits en briques, mais également un ingrédient pour faire d'autres produits.
Ils sont à quel endroit ces éleveurs ? Un petit peu partout ou concentrés dans certaines régions ?
Un peu partout en France. Plutôt effectivement le bassin du Rhône au départ, parce que c'est là où tout est né. Après, on a vu que la Bretagne s'était mobilisée. Et il faut dire une chose sur les ex-lactalistes, comme on les appelle. Ce sont des consommateurs qui ont vu ça à la télé, sociétaires de la coopérative, qui ont dit, mais attendez, on a fait ça pour ça, appelez-les. Et on a passé un coup de fil en disant, il y a déjà beaucoup de messages pour vous proposer de venir dans cette démarche. Et c'est là où tout est rendu possible, parce qu'on n'a pas passé seul cet appel, évidemment.
Concernant le prix, l'éleveur touche 39 centimes, c'était ça il y a 2 ans, c'est toujours le même prix ou est-ce que ça va évoluer de ce côté-là ?
C'est toujours le même prix tant que c'est vraiment rentable pour l'éleveur, le producteur. Et il faut dire une chose, et on y tient, ces 39 centimes-là, c'est décidé par le producteur. C'est-à-dire qu'on lui dit, en tant que consommateur, à quel niveau de rémunération on peut mettre cette phrase ? On n'a pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le dise, et c'est bien lui qui le dit. Si un jour les fourrages et il y avait des coûts qui explosaient à la hausse, on revoterait pour que la promesse d'équité soit bien maintenue et bien réelle.
C'est un prix qui peut être variable, effectivement.
Voilà, il l'est pas, évidemment, parce que c'est haut. 39,41 centimes, c'est plutôt moins, évidemment. Hélas, et on pense à tous les producteurs, et franchement, on y pense du fond du cœur, qui n'ont pas de solution aujourd'hui. Il suffit qu'on se mobilise pour qu'il y ait de plus en plus de ventes de lait équitable, celui-là ou un autre, il faut bien le dire, pour que des rayons, finalement, deviennent beaucoup plus sympas et que beaucoup plus de producteurs retrouvent le sourire. C'est dans nos mains, dans notre poche, ça s'appelle un acte d'achat responsable.
Et juste une dernière remarque, tout ça est collecté par une seule et même laiterie. Voilà. La laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, qui est dans le centre de la France.
Voilà, la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Et il faut rendre hommage aux gens qui, un jour, changent les destins. Emmanuel Vasnex, quand toutes les laiteries disaient c'est trop compliqué, on n'en veut pas. Lui a dit, je le fais, et c'était un pari extraordinaire. C'est le patron de la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel.
Une petite question sur la loi agriculture et alimentation qui a été adoptée au début du mois. Concernant, il a évidemment été question de la juste rémunération des producteurs. Visiblement, cette loi n'a pas vraiment atteint son objectif. En tout cas, que ce soit la FNSEA, la Confédération Paysanne, tout le monde dit que ce n'est pas atteint. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous pose la question à tous les deux. Manuel Ruffez, Nicolas Chaban, pourquoi ça ne marche pas quand on fait des lois?
On nous a clairement dit, c'est le cabinet de Emmanuel Macron, par Audrey Bourleau, qui a dit, voilà, la loi est inspirée de C'est qui le patron? Donc on s'est dit, c'est quand même fabuleux, puisqu'on a montré, nous, que c'était possible côté consommateur.
Après,
À partir du coût de production.
Et après, de construire le prix.
Et construire les sorts. Après, alors, il y a ce qu'on appelle les lobbies, on va appeler ça l'inertie, pour être plus sympa, qui fait que tout se ralentit. Mais il y a bien plus fort qu'une loi et qu'une disposition législative, encore une fois, c'est le vote qu'on peut faire tous les jours, nous, à notre niveau. Si on décide d'acheter du lait équitable et que tout le monde se rend compte que c'est le lait de demain et que ça répond à des attentes, vous verrez que le gros bateau global va bouger. On a un pouvoir plus grand que des lois qu'on attend depuis trop longtemps ou qui se rendent un peu inefficaces.
Alors la grande question aussi, c'est de savoir où on trouve vos produits. C'est la question de la distribution, c'est très important. 12 000 magasins désormais, Nicolas Chaban.
Voilà, 12 000 magasins, mais je me fais toujours un peu engueuler parce que ces 12 000 magasins...
Ils n'ont pas forcément tout,
voilà,
c'est ça.
Ils peuvent commander les produits. Voilà. Et pareil, un sociétaire nous dit, il faut qu'on crée une application. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire une application où on peut signaler où sont les produits, parce qu'énormément de gens les cherchent, mais on peut mettre aussi trop haut, trop bas, il n'y en a plus, attention, il n'est pas bien mis en valeur. Deuxième chose incroyable, il a permis en un clic qu'on envoie une lettre au directeur du magasin qui n'a pas encore les produits. Je suis consommateur de votre magasin, j'aimerais que ces produits arrivent chez vous, je vais les acheter et je le dirai aux autres. Ce texte a été fait aussi par les sociétaires et ça a 12 000 envois en quelques semaines.
Ce qu'il faut dire, Nicolas Chaban, c'est que vous travaillez avec la grande distribution aussi, c'est même essentiel, c'est Carrefour avec qui vous avez commencé. Aujourd'hui, il y a pratiquement tout le monde, sauf Franprix. Ils veulent pas, qu'est-ce qui se passe?
Alors, on les a pas appelés, donc on est un peu coupable de pas leur avoir déjà demandé, parce qu'on a eu tous ces appels entrants. Mais il y a eu des réticences chez d'autres, parce que les consommateurs qui viennent finalement faire le métier d'expertise de la grande distribution, il y avait des réticents. Mais vous savez ce qui a fait lâcher ces digues? Les petits mots, les petites phrases dans les magasins
clients,
de tout le monde en disant « Je suis cliente depuis 30 ans, est-ce que vous voulez bien mettre cette brique de lait que je trouve juste et équitable ?» Ça a bien plus de poids que n'importe quel commercial qui aurait demandé la même chose au directeur.
Un petit mot concernant la structure, C'est qui le patron, financé par 5% sur les ventes, c'est ça. Chiffre d'affaires 1,7 million en 2017, 3 millions en 2018. Là, ça devient sérieux.
Ah oui, mais c'est ça aussi, c'est une règle.
Pour vous,
absolument...
qui paraît-il avait un rapport coupable avec l'argent,
oui,
j'arrive pas à le croire.
Je viens de bégayer trois fois et je voulais prouver. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait faire au-delà d'une initiative qui pouvait faire bouger les lignes, on voulait que le monde agroalimentaire se rende compte qu'on avait d'autres attentes. Mais la bonne surprise aujourd'hui, c'est que on a une marque collective. Chacun peut être sociétaire avec 1 euro et entrer dans cette coopérative. Mais on a même les moyens de faire des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec des vœux pieux, une petite association face aux mastodontes en train de demander s'ils vont bien vouloir nous écouter. On décide ensemble d'orientations fortes qui font bouger le marché agroalimentaire. Il y a 15 aujourd'hui marques de lait équitable qui ont suivi ce modèle vertueux.
Et sinon, vous êtes 8 salariés, c'est ça?
Alors maintenant,
3 au départ, 8 maintenant.
2 et maintenant 12, ce qui, on regarde tous ces produits qui arrivent, et peu, mais on n'est pas seulement 12 en réalité. Il y a ces 6 millions d'acheteurs qui relaient, qui parlent, qui expliquent au chef des rayons que ça a du sens. Et un grand merci à tout le monde, évidemment. Et j'en profite pour le dire clairement aujourd'hui.
Je viens d'un pays où j'ai choisi de naître, un bout de paradis que tu connais peut-être. Je viens d'un endroit sans drapeau ni frontière, une terre sans loi où personne ne se plaît. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ces bois, en même temps que toi. J'ai grandi sous ces...
ses doigts en même temps que toi. Je viens d'un pays où l'on veut se les armes, une patrie gouvernée par le rire et les larmes. C'est là pas mon histoire tout au bout de ce monde, où mon cœur surit par seconde après seconde. Mon pays, c'est l'amour, mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi, j'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. Jamais quitté, il est ce que je suis et tout ce que je fais. Mais moi je sais qu'il se souvient de moi. Peu importe où je vais, il m'y attend déjà. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi. J'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. Même temps que toi. Oh, yeah. En même temps que toi.
Eh oui, mon pays c'est l'amour, Johnny Hallyday, le titre phare de cet album posthume sorti aujourd'hui même. Nicolas Chaban, on va parler un petit peu de vous maintenant quand même. Vous avez 49 ans. Enfance passée à Madagascar, ensuite retour en France, dans le Vaucluse, vous avez passé le bac à Carpentras, après il y a eu la Sorbonne, bon, allez quoi, quelques années sans que ça débouche vraiment, puis vous êtes reparti dans le Vaucluse, et là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez monté un réseau de lavage de voitures sur les parkings des supermarchés, un réseau solidaire, c'est quoi ce truc-là?
Ouais, mais j'avais un copain d'enfance qui n'avait pas de boulot, et qui m'a dit, on pourrait laver des voitures pendant que les gens font leurs courses. Et donc, mon rôle à moi, ça a été d'aller voir un patron de supermarché, en tentant tout pour le tout, en disant, écoutez, c'est pas ça qui va vous rapporter beaucoup d'argent, on va vous faire un service fabuleux, mais aidez-nous, offrez-nous l'eau et l'électricité. En pensant qu'il dirait non, il a dit oui à tout. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de loyer. Les magasins payent l'eau et l'électricité. En échange de ça, il y a des gens qui vivent avec ce service fabuleux.
Après, vous avez travaillé dans la communication territoriale. Vous êtes occupé de la fraise de Carpentras. Vous l'avez même amené à l'Élysée. Vous avez lancé Le Petit Producteur, puis les fameuses gueules cassées. Ces fruits et légumes amochés, là, enfin, qui ne correspondaient pas aux critères. Ce qui vous vaudra le prix de l'audace marketing d'HEC. Bravo.
Ah ouais,
et
ouais.
Même les honneurs du New York Times.
Ah oui, c'était les gueules cassées, très belle aventure, et c'était étonnant d'ailleurs parce que le prix HEC, il y a 3 jours, a été remis au sociétaire qui portait C'est qui le patron. Vous voyez, la belle histoire s'est renouvelée. Le New York Times, un jour, est venu et a titré « Save Planet, Eat Ugly ». C'est parti de France. Aujourd'hui, il y a partout des marques qui sauvent des produits qui sont parfaitement comestibles et très bons, qu'on peut acheter moins cher parce qu'ils ont des petits défauts. En France, un seul petit chiffre pour vous donner une idée. On remplirait le Stade de France à rabord avec ces aliments chaque année qui, pour des questions de forme et d'esthétisme, ne sont pas consommés.
Et c'est vrai qu'on dénonce très souvent ce phénomène de gâchis ici sur France Inter. Les projets pour C'est qui le patron maintenant, Nicolas Chaban, c'est quoi? J'ai vu que vous vouliez faire tourner des camions dans les villes avec vos produits, c'est vrai?
Alors,
ça
voilà, nous, tous les projets vont être votés collectivement. On récupère des propositions. Le camion, vous savez, le vieux camion, enfin moi je suis un campagnard, j'habite au pied du Mont Ventoux et j'ai l'habitude, et je voyais ça en Ardèche, des camions qui viennent, qui klaxonnent et qui vous amènent des bonnes choses. Voilà, ça peut être aussi une façon d'avoir un autre réseau de distribution. Mais là, il y a un énorme pari qui est en train de se faire. 40 grandes marques sont venues nous voir nous disant on n'est plus entendu, il y a une défiance phénoménale, on explique qu'on fait des choses bien, plus personne ne nous croit. Vous voulez pas venir dans nos coulisses voir s'il n'y a pas des choses à raconter. Alors tout le monde a mis un énorme stop en disant « c'est peut-être pas la bonne idée ». Puis il y a une petite famille de gens chez nous qui ont dit « mais si on veut changer les choses, il faut peut-être aller chez les grands qui font 90% des produits que nous consommons et que nos enfants consomment ». Donc voilà, ça c'est une nouveauté. On va y aller à petits pas, mais pourquoi pas si ça peut faire avancer les choses.
Et des magasins, c'est qui le patron ? Ça pourra arriver ça ?
Alors, c'est pareil, on vit des choses incroyables. Ce sont des organismes spécialisés qui nous disent « on est prêt à tout faire, venez, on vous le fera clé en main ». Autant de projets qu'on mettra au vote collectif, en regardant avec quelques-uns si ça peut être durable. Tout ce qui permettra de vendre plus de produits équitables, durables, qui ont un peu de sens, on le fera.
Alors à propos des produits, on a parlé du lait, donc ça on a compris que les éleveurs ils étaient en France. Mais alors quand je vois le chocolat que vous nous avez apporté là ce soir, a priori le cacao ça pousse pas ici. Comment vous faites pour vérifier le côté équitable des choses ?
Voilà, mais un peu comme vous, parce que les votes sont en amont. Quels produits on fait ? Et les gens ont dit le chocolat. Donc là, ça, le choix ne nous appartient plus individuellement. Et on s'est rendu compte que on pouvait aller non pas jusqu'à la coopérative en Afrique qui reçoit le fruit de l'équitable, mais jusqu'au producteur. On a sauté cette étape. Laurent Pasquier, co-initiateur de la démarche, est allé jusque-là. Et comme on le fait en France, on a pu se rendre compte que quelqu'un nous disait « oui, je reçois cet argent ». On l'a fait avec C'est Moi, qui est un fabricant qui a fait ce travail depuis des années. On réinvente pas tout, hein. Ce qui existe, on le relaie, on le met au grand jour et surtout, on le contrôle avec bienveillance, mais on contrôle tout.
Alors, elle est à côté de nous, Sandrine Houdin. Bonsoir, elle a fait les gros yeux parce qu'elle veut le chocolat. Alors, on va lui donner tout de suite.
Alors, il n'est pas encore sorti. Vous allez goûter les premiers carrés de chocolat.
Le patron. Sandrine Houdin, c'est quelqu'un qui a une rubrique positive, qui va vous plaire, Nicolas Chaban, j'en suis persuadée. Sandrine, ce soir, un tournoi de football totalement improbable. Un tournoi organisé le week-end dernier en partenariat avec le Red Star par Fraternité Générale. C'est un mouvement de lutte contre le communautarisme et le repli identitaire. Le stade Boer de Saint-Ouen n'avait jamais vu ça.
Imaginez des policiers qui font des passes à des jeunes des cités, qui eux-mêmes font des passes à des étudiants de grandes écoles, qui passent le ballon à des anciens détenus, des gays, des lesbiennes, des réfugiés. En fait, les organisateurs ont invité plus d'une dizaine d'associations qui luttent pour la mixité et le vivre ensemble. Et ensuite, une fois sur le terrain, elle les a toutes mélangées.
C'est-à-dire ?
Mais ça veut dire que ce n'était pas l'équipe qui défend la communauté homo, par exemple, contre l'équipe qui prône le dialogue entre les religions, beaucoup trop fastoche. L'astuce, ça a été de tirer au sort toutes les équipes parmi les joueurs inscrits et ensuite de leur donner à tous exactement le même maillot.
Alors je crois que j'ai compris, le même maillot ça veut dire qu'on ne sait pas avec qui on joue. Histoire de faire tomber les préjugés, on sympathise d'abord avec son coéquipier et après seulement on découvre qui il est.
Cette jeune femme par exemple qui sort des vestiaires, elle ne sait ni avec qui ni contre qui elle va jouer, contre quoi. Ça, elle le sait.
On en a ras-le-bol de l'homophobie dans le sport. Il y a des sportives homosexuelles, mais qui ne sont pas outées, homosexuelles au grand jour, on va dire, qui sont cachées, parce qu'il y a des pressions des sponsors, il y a des pressions des supporters. Il faut paraître une équipe lisse, s'afficher avec une famille.
C'est des remarques, c'est des actes, c'est quoi ?
On peut avoir des remarques, voilà, les lesbiennes, Vas-y, devant, vas-y ! Voilà, gardien, tape devant !
Carton rouge à l'homophobie, donc, pour le collectif Les Dégommeuses.
Bien joué !
Carton rouge à la haine de l'uniforme pour cette policière municipale de Seine-Saint-Denis.
Du moment qu'on sort d'une cité, on n'aime pas les bleus, quoi. Dès qu'on arrive, c'est tiens, voilà la mumu. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un pavé dans la voiture. Des collègues qui ont fini à l'hôpital, enfin, tout ça parce qu'on est habillé en bleu.
Et vous en souffrez, vous, de ces préjugés ?
Oui, puisque moi, j'ai choisi ce métier parce que j'aime les gens. Et en fait, ils ne me le renvoient pas forcément.
Parlez-vous, vous deux !
Voilà !
Parlez-vous, c'est le combat de son collectif citoyen policier. Sa fondatrice joue aussi. Encore faut-il la trouver.
Fais des postes et tu dois toucher la balle.
Excusez-moi, c'est vous Gaëlle ? France Inter ?
Oui, c'est moi.
Parce qu'avec les maillots, je vous cherche partout depuis tout à l'heure. Je peux vous kidnapper 2 minutes ?
Oui, bien sûr.
Question simple, pourquoi ici ? Pourquoi ce tournoi ?
Quand on a commencé le collectif, j'avais des amis anarchistes qui me disaient « Mais toi, t'es une collabo, t'es une facho maintenant, tu parles avec les policiers. » Et j'avais des policiers que je rencontrais qui me disaient « Mais toi, de toute façon, tu traînes avec des anars et tout machin, t'es une gaucho. » Donc c'est clair. Et c'est deux préjugés totalement débiles.
Vous allez jusqu'à penser que parfois ça castagne à cause de ses préjugés?
Je pense pas que ça ne castagne qu'à cause de ses préjugés, mais oui, je pense que c'est une partie importante qui fait que ça peut vite dégénérer, quoi.
Les préjugés, Florent aussi veut les mettre sur la touche. Il milite à Équipe Sans Frontières qui défend les migrants.
Migrants, ça va être une communauté, alors qu'en réalité ils sont très souvent seuls. Ça peut être un Africain qui choisit, qui vient pour y trouver des avantages, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Ça peut être une étiquette agressive. C'est souvent associé aux camps qui sont là pour eux, mais qui aussi créent une atmosphère assez négative dans certains arrondissements. On essaye de mettre des problèmes dans des cases, et aujourd'hui, la case migrant, c'est une case facile, puisque les personnes sont sans défense.
Hey, ils ont eu trois actions, ils ont failli marquer, les gars.
120 personnes sur la pelouse, beau score, Émilie Gral à l'origine de ce tournoi.
Le but, c'est pas de marquer des buts, c'est de faire jouer ensemble des gens qui ont jamais l'occasion de passer un moment cool ensemble. Moi, je suis un ancien détenu, donc je vais avoir pas des flics. Moi, je suis étudiant à Sciences Po et je sais pas ce que c'est que la vie en banlieue. Je sais pas ce que c'est qu'avoir 16 ans aujourd'hui, d'être black, d'être musulman. Et à l'inverse, en fait, moi, je suis black, je suis musulman, je vis à Saint-Ouen. Et ben, je vais avoir tendance à avoir beaucoup de préjugés sur un petit mec qui fait des grandes études, qui va faire l'ENA et qui va peut-être diriger le pays un jour. Et le fait de pas se comprendre, bah, ça engendre du vote FN, ça engendre de la violence. Ça fait qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est un peu... on se comprend plus.
La vraie victoire, ça serait quoi?
Ah bah, la vraie victoire, ça serait qu'on puisse en refaire régulièrement et spontanément des matchs comme ça, et puis que ça se passe pas qu'aujourd'hui au Stade Bauer, mais que ça se passe dans la vie de tous les jours.
Ah, ce spectateur est dubitatif.
Ça a toujours été comme ça. Il y aura peut-être moins, mais ça, il y aura toujours des problèmes entre les êtres humains. Moi, je pense que c'est un travail de longue haleine. C'est pas en un tournoi que ça, les choses vont changer, quoi.
Ouais, mais ce soir, ils vont rentrer chez eux en se disant, bah... ouais, moi, j'ai passé la journée à faire des passes décisives à un flic, moi. Moi qui sors de tôle, c'est un premier pas.
Merci mille fois Sandrine et bravo pour cette initiative de Fraternité Générale. Je suis sûr que ça vous plaît, Nicolas Chabanne.
Ah, mais c'est le monde de demain là, parce que c'est juste très intelligent, ça fonctionne. Une passe décisive par quelqu'un qu'on n'avait pas imaginé simplement saluer, ça change la vision du monde.
Ça vous plaît, ça je suis sûr, quelqu'un comme vous qui fuit les gens qui disent non. Sinon, là vous êtes venu avec votre valise, vous repartez dans le Vaucluse juste après. Est-ce que c'est vrai que quand vous venez à Paris, vous logez dans un hôtel où le poète Arthur Rimbaud avait ses habitudes?
Et voilà, j'ai découvert ça.
Alors, moi, vous êtes un fan.
Bah, je suis un fan depuis longtemps. Et puis un jour, je vois un petit livret sur l'accueil là, de l'hôtel. Et on me dit, mais c'est l'hôtel où il venait écrire en arrivant de Charleville ses poèmes. Alors, j'en revenais pas. Et depuis, bah, je reste dans cet hôtel.
Vous savez que nous, ici, dans cette émission, on aime beaucoup la poésie. Alors, si vous voulez nous réciter un vers, on est preneurs. On a encore 1 minute 30. Allez.
Oh, voilà, mais écoutez, parce que je peux pas. C'est tellement rare les émissions où on peut le faire. Donc. Le début et puis une phrase incroyable après. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. C'est le début du bateau ivre. Il a 16 ans, il est à Charleville. Personne ne veut lire ses poèmes. Et il écrit plus loin, après des images extraordinaires à redécouvrir, si vous le voulez, en allant sur Internet, retrouver le bateau ivre. Il dit « Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ». C'est-à-dire qu'à 16 ans, il estime que sa propre vision peut transcender ce que peut-être on lui avait inculqué juste avant. Donc il faut rester assez vigilant là-dessus. C'est pas parce qu'on nous montre un monde que le monde qu'on peut voir ne peut pas être différent.
En tout cas, vous avez vraiment une voix qui est faite pour lire des poèmes, Nicolas Chabanne. En guise de conclusion, moi, j'aimerais vous demander de quoi vous êtes le plus fier de ce que vous avez fait. Parce que c'est une sacrée responsabilité quand même de se dire que vous alliez permettre à des éleveurs de vivre de leur travail. Il ne fallait pas les décevoir.
À titre personnel, vraiment, j'oublie cette dimension-là. Il y a une image extraordinaire qu'on m'a donnée récemment, un sociétaire. Comme je dis toujours la vérité, je ne vais pas mentir, c'est mon père qui m'a dit ça. Il m'a dit, quand tu regardes ces étourneaux qui tournoient par milliers dans le ciel, il n'y a pas un leader qui donne une orientation à tout le monde. Il y a cette intelligence collective incroyable qui donne un instinct de solidarité et de mouvement collectif. Et je crois que c'est qu'il patron et bien d'autres choses sont finalement poussés par cette intelligence collective bien plus intéressante à suivre que l'intelligence individuelle.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Nicolas Chaban, d'être venu ici ce soir. Je renvoie pour tous ceux que ça intéresse, évidemment, au site. C'est qu'il patron à l'application. Enfin, il y a des tas de choses. Et évidemment, à vos produits. Bon retour dans le Vaucluse. Après le journal de 19h, on s'intéressera ce soir à la scolarisation des enfants handicapés et au cas des accompagnants AVS et AESH qui a donné lieu, vous le savez, à un clash il y a 8 jours à l'Assemblée. Pour en parler, surtout appelez-nous au 01 45 24 7000.